Donc nous sommes le 18 novembre 2018, bienvenue dans Commentaires d'après-jeu, le podcast qui vous éveille à la critique ludique, où un groupe de joueurs différents à chaque épisode donne ses réactions à chaud, juste après une partie de jeu de société. Le jeu de ce soir est Les Loups-garous de Tiercelieu. Donc Les Loups-garous de Tiercelieu, je ne sais même pas si on a encore besoin de présenter ce jeu. C'est un jeu de Philippe Despalières et Hervé Marly. Donc édité par lui-même, c'est ce que j'appelle un loup-garou-like en fait. C'est lui qui a cité, qui est le premier jeu du genre, et donc les jeux du genre mafia, on les appelle des loup-garou-like. Nombre de joueurs, de 8 à 18 joueurs, âge minimum 10 ans, durée d'une partie, variable suivant beaucoup de choses, mais on va dire de 15 minutes à 45 minutes. Donc on va commencer par un tour de table, on va se présenter. Donc tout d'abord moi je suis votre hôte, Philippe, j'ai 36 ans, je joue à énormément de jeux, je suis meneur de loup-garou depuis quasiment 10 ans. Et puis donc la soirée s'est passée chez moi ce soir. Et à ma gauche j'ai Flavien.
Bonjour, je suis donc Flavien, 33 ans, je suis un grand fan de joueurs de jeux de société et j'aime beaucoup le style jeu d'ambiance aussi rôle. Et je viens découvrir depuis une bonne année de nouveau le loup-garou.
Bonjour, je suis Laurie et j'ai 33 ans.
Et ça fait longtemps que ton expérience sur le loup-garou, Laurie?
J'y joue de temps en temps à l'occasion.
D'accord.
Bonjour, donc moi c'est Laura. J'ai joué il y a des années au Loup-garou une ou deux fois, mais du coup là c'était vraiment une vraie reprise. Donc que je ne connais vraiment quasiment pas.
Bonjour, Nicolas. Pour ma part, j'ai joué au Loup-garou il y a quelques années où j'étais assez assidu, mais là, c'est après un long break, c'est vraiment une grosse reprise. Et je joue occasionnellement aux jeux de société diverses, tout petit jeu de cartes. Je suis assez intéressé aussi.
Bonjour, je m'appelle Béatrice. Je connais le loup-garou grâce aux enfants avec qui je travaille, c'est eux qui m'ont appris. Ça fait 4 ans que j'y joue. Et puis voilà.
Et ton âge?
Ah, j'ai 29 ans.
Bonjour Alexandre. J'ai découvert le loup-garou récemment. C'était ma deuxième partie. J'ai découvert ça avec une sortie entre amis, quoi. Je joue rarement aux jeux de rôle. C'était sympa.
Alors, donc on a fait le tour de table, on est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est 7 ce soir, on est assez nombreux. Petite précision, les loups-garous de Tiercelieu n'est pas un jeu de rôle, comme les puristes pourront le savoir, mais on verra ça dans un autre épisode. Donc on va tout de suite dire comment ça s'est fait. C'est un podcast qui est pas comme les autres, puisque le jeu n'a pas été tiré au hasard comme habituellement. Cette fois-ci, j'ai lancé une sortie vraiment Loup-garou Tiercelieu. Donc tout le monde, a priori, devait aimer le jeu avant ma soirée. Peut-être que ça a changé, peut-être que je les ai dégoûtés du Loup-garou à vie, ou suivant ma façon d'être le meneur. Alors, je vais tout de même résumer les règles du jeu pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, le loup-garou, les joueurs, donc on a dit de 8 à 18 joueurs, forment un village, ce sont tous des villageois, et dans le village, il y a des loups-garous qui se cachent parmi les villageois. Donc, il y a le jeu rythmé en deux périodes, la journée et la nuit. Donc, la nuit, les loups-garous se réveillent et tuent un villageois ou plus. Et la journée, les villageois lynchent une personne et donc sortent quelqu'un du jeu en espérant que ce soit un loup-garou. Le but du jeu pour les loups-garous étant de sortir tous les villageois, de manger tous les villageois. Et les villageois doivent sortir tous les loups-garous du jeu. Après, il y a plein de personnages qui ont des pouvoirs spéciaux, mais on ne va pas les énumérer tout de suite. Là, on va demander comment vous avez découvert le loup-garou, Laura par exemple. T'as dit que c'était avec des
Merci
enfants.
Béatrice.
Pardon, Béatrice, autant pour moi.
Donc moi j'ai ces enfants qui m'ont demandé si je voulais jouer, donc je connaissais pas, j'ai accepté.
Alors c'était dans quel cadre ?
De mon travail.
Et c'est quoi ton travail ?
Je suis animatrice avec les enfants.
D'accord.
Donc là c'était eux les animateurs finalement. Mmh. Et donc j'ai accepté, ils m'ont donné le rôle du villageois, je me suis grandement ennuyée et j'ai dit plus jamais. Et puis après ils m'ont donné un autre rôle, je me suis plus amusée et là j'ai plus mieux compris le jeu en fait.
D'accord. Et toi t'avais quel âge à cette époque-là ?
25 ans.
25 ans. Et eux, les enfants, ils avaient quel âge ?
Entre 9 et 13.
Entre 9 et 13. Et donc, le meneur, il avait quel âge ? Tu te rappelles ou pas ?
10 ans.
10 ans. Et... ah ouais, non, mais c'est tôt, hein ? C'est bien, c'est à partir de 10 ans ce jeu, donc c'est parfait. Et toi, donc, Alex, c'est très récemment que tu as découvert le jeu, tu nous racontes ça ?
Ouais, du coup, c'était une sortie. Chez une personne que je connaissais pas, on a fait de la pétanque, deux trois trucs classiques, on a mangé un peu et après ils ont fait un loup-garou du coup et,
ouais, et ils t'ont embarqué là. Dedans quoi.
Ouais, embarqué, voilà, bah tout le monde jouait là-dedans. Enfin, bah et, du coup les règles ont été simples à apprendre. Mm-hmm. On a appris un peu sur le tas les différents rôles des cartes et puis ensuite voilà, c'était un jeu de rôle, c'était assez amusant. La petite anecdote qui était pas mal, c'est que du coup, j'avais pas tout compris au début et du coup, j'ai balancé Béatrice à tout le monde en leur disant « Pourquoi tu bouges ?» et tout, hop. Donc tout le monde a compris que c'était un loup-garou, elle a été éliminée après moi.
C'est ça. Mm-hmm.
Elle a fait un peu la tronche et tout, a râlé un peu, c'était drôle du coup, j'ai bien rigolé, je pense, voilà.
Ah,
ouais. Voilà. Parce qu'elle est mauvaise joueuse. Et ça peut être signalé dans le podcast.
Ok. Et bah tu parlais de l'apprentissage des règles. Justement, ça va. C'était ma question qui arrivait après. Est-ce que vous trouvez que les règles sont faciles à apprendre au loup-garou ou pas ?
Oui.
Oui. Toi, dès le premier coup, t'as compris,
Bah, Béatrice ? En fait, moi, ce que j'ai pas compris dès le premier coup, c'était la narration. En fait,
oui.
J'ai eu beaucoup de mal à. Maintenant, je pourrais le mener, mais avant, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'histoire, en fait, à retenir l'histoire.
À retenir l'histoire.
Ouais. Mais sinon, les rôles, je les ai bien retenus.
Voilà. Okay. Alors, moi, c'est plutôt l'inverse.
Oui.
Le principe de base, c'est clair.
Oui.
Mais c'est le rôle de chacun qui est tellement différent. Enfin, chaque rôle est différent, oui. Et donc, du coup, d'intégrer tout et de mettre tout ça en même temps.
Oui.
Voilà.
C'est pas facile.
Non.
Ouais. Bah, c'est pour ça que moi, par exemple, en tant que meneur, je fais exprès au début de faire déjà une partie très rapide, comme vous avez pu le voir. Je modifie les règles juste pour la première partie. D'ailleurs, ça t'a perturbé, Béatrice. Tu comprenais pas pourquoi le chasseur pouvait tirer deux balles, pourquoi la sorcière ne pouvait pas sauver quelqu'un, mais pouvait juste tuer quelqu'un. Mmh. C'était pour que la partie soit plus rapide, pour que vous refamiliarisiez avec les règles. Et dans les parties d'après, j'ai pas changé la composition de l'équipe. Et ensuite, justement, après, j'ai changé qu'un seul personnage, un par un. Après, c'est pas moi qui ai fait le meneur. Ils ont changé plusieurs personnages, ils ont appelé de nouvelles personnes. Moi, personnellement, j'étais perdu.
entièrement d'accord avec toi.
Ouais, bon. Voilà. Et niveau apprentissage des règles, je trouve que quand on. Là, par exemple, la présentation que j'ai faite, je pense qu'elle est très floue pour ceux qui n'ont jamais joué. Mais je pense qu'une fois qu'on joue, il y a le meneur qui balance tout, qui nous guide et qu'il n'y a aucun problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Après, il y a quand même une rengaine, enfin pas une routine qui revient, mais il y a toujours la même procédure.
Ouais.
Donc après, c'est le rôle de chacun.
La question, c'est au bout de combien de nuits, combien de périodes, on arrive à comprendre comment ça se passe ? Au bout de deux nuits ou au bout de 5-6 nuits, ça veut dire éventuellement plusieurs parties.
Comment ça se passe ou qui est qui ?
Les deux.
Alors qui est qui ?
Jamais.
Jamais ?
Voilà, c'est bien. Non mais c'est bien, si on change trop souvent la composition, c'est normal. Ah ouais.
Ça c'est clair. Après, après sinon, ça vient rapidement, au bout de 2-3 nuits.
Ok, très bien. Ouais. Donc on va tout de suite parler maintenant de la question fatidique. Faut-il jouer avec des simples villageois ? Parce qu'il y a beaucoup de meneurs qui s'ennuient, enfin de joueurs qui s'ennuient quand ils n'ont qu'un simple villageois. Quelle est votre opinion là-dessus ? Qui veut prendre la parole ?
Moi, je veux bien.
Eh ben, je t'en prie.
Du coup, moi, en fait, le seul rôle que j'aime le moins, c'est celui-là, c'est le villageois.
Oui.
Bah, comme je vous l'ai expliqué, la première partie que j'ai jouée, j'ai eu ça. Mm-hmm. Et je me suis pas... Enfin, c'était pas l'éclat, quoi.
C'est clair, il y a aucun rôle. Oh, pardon.
Et du coup, bah, pour moi, c'est vraiment le moins intéressant.
D'accord.
Quelqu'un... Je partage aussi. Mm-hmm. Après, c'est plus simple pour retenir.
Oui.
Mais incarner un villageois simple, c'est chiant.
C'est il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire.
Ouais, voilà, okay. C'est ça, il n'y a rien à faire.
Alors, je vous retiens que je vous rejoins là-dessus sur le fait d'avoir un simple villageois, c'est pas super. Par contre, moi, si je les intègre, c'est pour les loups-garous. C'est pour que les loups-garous puissent se faire passer pour des simples villageois. Voilà. Flavien, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, je voulais dire aussi par effectivement, le villageois, il y a le côté on se réveille pas pendant la nuit. Mmh. C'est vrai qu'il y a le côté ennui où on peut se perdre. Mais par contre, j'aime bien, je voulais dire quand je l'ai précisé, le villageois-villageois.
Oui.
Et ça, c'est un rôle qui est quand même villageois simplement, mmh, mais qui est montré. Et ça, je trouve ça intéressant par contre.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, tout le monde sait que le villageois-villageois est un villageois parce que sa carte est face visible. Donc tout le monde, donc il est innocenté, mmh, auprès des autres.
Voilà, et ça, ça fait pas le même ennui, il n'y a pas d'ennui, je trouve. Ça fait un ennui qui est moins fort.
Ouais. Je suis d'accord, je partage aussi.
Ah voilà, et pourtant, je crois que c'est toi, Béatrice, qui est la première fois ce soir le villageois-villageois que tu ne connaissais pas.
Oui, c'est ça, exactement.
Et quelle a été ta réaction quand tu as eu le villageois-villageois entre les mains ?
Bah, comme pour le villageois simple, en fait, je me suis dit, bon, bah, j'ai encore une partie où je vais m'ennuyer, où je vais rien faire. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Flavien, sur le fait que ça fait vraiment personne de confiance, quoi. Voilà.
Donc, après coup, en fait, tu peux revoir ton jugement. Et finalement, t'es contente peut-être d'avoir joué avec.
Ouais. Oui.
Donc, finalement, le villageois-villageois, il est sympa. Ok. Alors, on va continuer là-dessus. Il y a... Donc, moi, j'intègre des simples villageois pour que les loups-garous puissent se faire passer pour des simples villageois. Là on a David qui est pas là sur le podcast, mais qui lui ça le dérange pas de pas mettre de simples villageois. Par contre il va appeler des personnages qui n'existent pas. Par exemple il a appelé l'ange alors qu'il n'y avait pas d'ange ou autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de mener le jeu? Est-ce que vous trouvez que c'est sympa ou ça vous perd complètement? Et
pourquoi pas un petit peu, mais trop. À un moment il en a appelé je sais pas combien. C'était trop, on était un peu perdus.
Ouais. Et on va continuer sur toi, Laurie. Est-ce que tu préfères dans ces cas-là qu'il y ait des simples villageois ou tu préfères qu'il appelle ou c'est quoi ta préférence en fait là-dessus? Ou qu'il y ait un moite-moite?
Moite-moite, un peu en plus pour permettre au loup-garou d'argumenter sur d'autres profils éventuellement. Mm-hmm. Mais
pas trop. Et avec potentiellement un villageois ou deux.
Oui, ou le villageois, comme on disait tout à l'heure.
Ouais. Nicolas, tu voulais parler ?
Oui, bah moi je trouve que c'est quand même intéressant. Enfin, pour avoir joué il y a quelques années, ça a apporté un peu de piment aux parties, mais après il faut avoir un peu plus d'expérience, je pense. Mm-hmm. Donc après, ça peut déstabiliser au début, mais quand on commence à jouer, plus souvent, je pense que c'est intéressant. Enfin, moi j'avais des meneurs qui en rajoutaient pas mal, mais après, ça dépend aussi du nombre de joueurs. On peut aller très très loin en nombre de joueurs.
Oui.
Donc, bon, le problème du nombre de joueurs, c'est que s'il n'y a pas ça, on peut vite se faire de l'ennui. Déjà, il y a des parties peuvent être longues et il y a des joueurs qui peuvent disparaître très rapidement et se retrouver longtemps sans jouer. Mm-hmm. Bon, ce qui peut se faire, c'est de recommencer une partie à côté.
Oui.
C'est une possibilité, ça c'est intéressant. Mm. Et ça donne aussi des parties plus en longueur et beaucoup plus tactiques, et où il y a beaucoup plus de bluff, je pense. Aussi.
Ouais, carrément.
Et même pour un simple villageois, c'est vrai que là j'ai eu ce soir une fois, c'est vrai que ça. Enfin là, j'ai pas trouvé ça intéressant. Maintenant, si on est plus nombreux, il y a possibilité quand même d'avoir un rôle. Et je crois que David a été villageois. Enfin, a eu la carte aussi du village.
Simple villageois.
Il a joué un rôle très important dans cette partie-là.
Oui.
Où il a beaucoup joué son rôle de confiance et il a beaucoup indiqué les choses.
Donc moi, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si le hors-jeu et le en-jeu, les interactions entre les deux. Donc un exemple, si tu m'as tué la partie précédente, je te tue rapidement dès le début. Ou si t'es méchant avec moi, je te ferai pas une gâterie ce soir, je te ferai... ou je ne te ramènerai pas, ou...
Faut vraiment aimer le jeu, hein. Faut vraiment être à fond dans le jeu. Là.
Voilà, je sais pas. Laura, tu voulais réagir dessus.
Bah après, ça dépend surtout si on est mauvais joueur ou pas. Après, il y a toujours une envie de vouloir... Enfin, personnellement, de vouloir repiquer un petit peu, mais gentiment. Et puis, mm-hmm. mais de passer après à autre chose. Enfin... Voilà, c'était juste ça que j'avais à dire.
Ouais. Est-ce que vous avez été tenté de le faire ce soir, par exemple, Béatrice? Oh, t'as un sourire malicieux.
Non, moi je l'ai fait, mais c'est
tu l'as fait. Alors, après. Raconte exactement ce que t'as fait.
J'ai soudoyé mon copain Alexandre, parce que quand même c'est mon copain, il n'avait pas le droit de me tuer. Mais après, j'ai fait les yeux doux aussi. Bon, ça marche ou ça, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais bon, après c'est juste
T'es comme ça, toi.
Voilà, c'est pour rigoler. Après, je perds, hein. C'est pas la fin du monde.
La technique des yeux doux.
Ok. Est-ce que vous avez des personnages que vous aimez bien voir dans le jeu ou incarner éventuellement? Si oui, lesquels? Alors, Béatrice, encore, je te vois hocher de la tête. T'as beaucoup de choses à dire ce soir, c'est très bien. Des personnages. Alors, oui. Je crois savoir lequel. Dis-nous tout. Alors, tu aimais bien te faire passer pour vas-y.
Pour une fille de joie.
Pour une la prostituée. Alors je vais expliquer le personnage. La prostituée, donc c'est un personnage qui a été inventé. D'autres personnes l'appellent le tavernier. La prostituée toutes les nuits va dormir chez un client et donc si les loups mangent la prostituée, ils ne peuvent pas manger la prostituée. Par contre, si ils mangent le client, ils mangent la prostituée avec.
Du coup, j'aime bien aussi, j'aime beaucoup le Salvateur.
Oui.
Celui qui protège certaines personnes la nuit. Mm-hmm. Et je peux dire ceux que j'aime le moins.
Oui, vas-y.
Et dans ceux que j'aime le moins, à part le villageois, c'est Cupidon. Parce que du coup, il a qu'une tâche à faire au début de la partie et puis c'est tout.
Ouais, moi personnellement, souvent, en tant que maître du jeu, je donne à quelqu'un, à un autre personnage, le rôle de Cupidon. Donc ça peut être. Ça peut être l'ange ou autre chose. Nicolas, tu voulais réagir dessus?
Moi, j'ai bien aimé le Salvateur aussi. Enfin, je l'ai eu pas mal ce soir.
Oui, c'est vrai, ouais.
Peut-être un peu trop aussi. Donc, mais c'est vrai que c'est un rôle qui est assez intéressant, quoi. Ça permet quand même d'être plus investi dans la partie, quand même.
Donc le Salvateur, on a oublié de rappeler. Donc, ouais, de rappeler ses pouvoirs. Moi, je l'appelle la Capote. Il permet de protéger une personne de la morsure des loups-garous, pendant la nuit en fait. Et donc il ne peut pas protéger deux nuits de suite la même personne.
Il peut se protéger aussi, donc ça permet aussi de rester un peu plus longtemps à la partie.
Oui, tout à fait, ouais.
Et d'avoir un rôle un peu plus serviable.
Et quand il reste très peu de personnes et que lui est encore en jeu, j'ai souvent vu les loups-garous qui ne pouvaient pas le manger parce qu'il se protégeait lui-même et gagnait la partie grâce à ça.
Moi, je trouve que ça donne du rebondissement, en fait.
Oui.
Donc, vu qu'il protège, on ne sait pas qui est protégé, donc on peut vouloir tuer la personne qui est protégée sans le savoir et du coup, elle ne va pas mourir. Mm-hmm. Enfin, je trouve que cette carte a un côté rebondissant dans l'histoire.
Ouais, c'est un personnage qui a été mis dès la deuxième extension. Enfin, dès la première extension de jeu. Ouais. Et donc, maintenant, des personnages que vous n'aimez pas voir dans le jeu, est-ce qu'il y en a que vous détestez, avec lesquels vous détestez jouer? Souvent, on parle de la petite fille, les gens disent qu'elle est injouable.
Moi, je l'aime bien.
Toi, t'aimes bien la petite fille? Ouais.
C'est quoi son rôle déjà?
Elle peut regarder. Pendant la nuit, quand les loups-garous sont réveillés.
Je crois que c'était la voyante, ça.
Non,
oui, moi
la petite fille, elle peut regarder discrètement qui est loup-garou.
Ouais, elle a le droit d'ouvrir les yeux pendant que les loups-garous sont en train de manger quelqu'un, de désigner une personne.
Mais si elle se fait prendre, elle perd.
Ouais, ça marche jamais. Voilà. Je vais toujours prendre.
Moi, je joue très rarement avec elle et effectivement, je trouve que elle se fait souvent prendre. Ou alors elle se fait passer pour un loup-garou, mais c'est pas vraiment du jeu. Je trouve que c'est un personnage qui marche très mal, alors qu'il est dans le jeu de base. Pour moi, c'est pas bien. On a tous nos goûts différents.
Moi, j'aime pas trop non plus la petite fille, c'est pas facile à jouer.
Ouais. Même quand on est petite fille, moi, je stresse d'ouvrir les yeux. Donc j'aime pas.
C'est pas naturel de se cacher les yeux pour pouvoir regarder un petit peu.
Mais du coup, on n'ose peut-être pas utiliser ce personnage, je pense.
Ouais.
C'est délicat.
Ouais. Après, moi, il y a un personnage que j'adore, c'est le vieux, c'est l'ancien. Mais par contre, en tant que meneur, et je ne suis pas le seul, je ne le mets jamais en tant que meneur, parce qu'à chaque fois, j'oublie qu'il existe. Et donc, quand les loups-garous le mangent, eh ben, je révèle sa carte, alors qu'il n'aurait pas dû être révélé, puisqu'il peut se faire mordre une fois avant d'être vraiment mort.
Il a un coup de joker en fait.
Ouais, c'est un coup de joker. Et donc j'adore ce rôle, je le trouve super, mais effectivement, à chaque fois en tant que meneur, et là encore, c'est David a fait la même boulette que moi à chaque fois. L'ancien a été mordu, et il a éliminé, et puis il s'est repris, il a fait une pirouette, et finalement on a continué le jeu.
Du coup, moi j'ai fait plein de parties,
oui.
et avant ce soir, je le connaissais pas.
Tu le connaissais pas, non. Et pourtant l'ancien il est pareil, il est dans la première extension, donc il est pourtant assez connu, c'est étonnant.
Ouais. Mmh. Moi je voulais dire aussi que effectivement la petite fille elle est pas facile à jouer, mmh. Et ça fait un côté stress, ça fait une grosse pression, et je trouve aussi que le grand loup-garou.
Alors, il n'y a pas de grand loup-garou, il y a l'infect, le grand méchant loup sûrement.
Le grand méchant loup, autant pour moi.
Ouais. Qui donc tue quelqu'un, enfin tue une deuxième personne la nuit tant qu'aucun loup-garou n'est mort. Oui.
Voilà, et là, je trouve que de tuer deux fois sans qu'un loup-garou meure, je trouve que ça peut. Moi, je n'aime pas trop ce personnage.
Alors pourquoi tu l'aimes pas? Tu trouves que ça avantage trop les loups-garous?
C'est un côté, je trouve, où. Alors après, c'est en fonction du nombre, bien sûr, toujours. Mais je trouve que c'est. Ça peut aller très vite en facilité pour les loups-garous sur les deux morsures, en plus de la sorcière qui peut tuer. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est un personnage qui m'a toujours un petit peu waouh. Par contre, j'aime beaucoup le principe. Je voulais dire aussi. Alors. De Cupidon, mais le principe du couple met une ambiance en plus.
Ouais, à moi, ouais. Ouais.
Voilà. Alors, c'est sûr que sur le plan Cupidon, c'est juste un rôle, c'est une tâche, mais ça fait par contre un équilibre dans le jeu, parce que le couple qui fait loup-garou et l'autre villageois, ça crée un équilibre. Donc, ça, c'est pour ça que j'aime le personnage Cupidon pour l'équilibre qu'il crée.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Autant j'aime pas avoir Cupidon, mais par contre, j'adore qu'effectivement, il y ait deux amoureux. Et il y a des meneurs qui enlèvent Cupidon et qui font Cupidon à la place, enfin qui désignent deux amoureux, voire trois quand il y a beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que le fait d'avoir été désigné par une personne, moi, je trouve que c'est mieux. Donc j'aime bien le garder, même si j'aime pas l'avoir, Cupidon.
Avis partagé.
Avis partagé, c'est-à-dire que tu partages mon avis. Ou on est. J'ai pas compris.
D'avoir Cupidon ?
Bah que le personnage de Cupidon n'est pas intéressant, mais le rôle qu'il a est bien.
D'accord, très voilà. Bien. Très bien, très bien. Donc on est tous d'accord en fait. Donc c'est avis unanime, c'est pas partagé. Ok.
Ah oui, d'accord.
Oui, mais. Ah, il fallait clarifier le truc, je ne savais pas. Est-ce qu'il y a des variantes que vous aimez ou que vous n'aimez pas dans le jeu? Donc, oui, Béatrice. Okay.
Moi, j'adore. Alors, j'adore l'enfant loup et le loup blanc.
Alors,
enfin, c'est l'extension,
oui.
Quoi.
Oui, oui, tout à fait. Rappelle-nous juste les rôles qu'ils ont chacun.
Alors, l'enfant loup, si mon souvenir est bon, il est soit villageois. Au départ, il est villageois au loup. Enfin, il est villageois.
Oui.
Et s'il choisit un loup-garou, c'est ça? Il devient loup.
Alors ça, c'est l'enfant sauvage.
Ah d'accord, bah, c'est lui en fait que j'aime bien.
D'accord, donc on a joué avec ce soir, on est d'accord. Oui. Donc l'enfant sauvage, il commence comme villageois.
Attends.
Et la première nuit, il choisit un mentor. Quand son mentor meurt, l'enfant sauvage se transforme en loup-garou. Donc son mentor peut ne jamais mourir. Et dans ces cas, il peut ne jamais se transformer. Et l'autre personnage que tu aimais bien ?
Le loup blanc.
Le loup blanc.
C'est un autre loup, en fait. Il joue avec les loups-garous. Mm-hmm. Sauf qu'il a le droit... Alors, attends. Je sais plus. Il a le droit de...
Alors, le loup blanc, en fait...
Il peut gagner lui tout seul. En
fait. Il doit gagner tout seul. Oui, il a son propre camp. Mm-hmm. Et donc, une nuit sur deux, il va avoir la possibilité de manger un de ses congénères, un loup-garou. Et il doit gagner tout seul. Il ne peut pas gagner avec les loups-garous ou avec les villageois. Il est tout seul. Et en fait, il est très bien, le loup blanc. On n'a pas joué avec ce soir. Mais il est très bien quand on est moins de 12 joueurs. Parce qu'il permet d'équilibrer. Et ce soir, par exemple, on a eu des gros problèmes d'équilibrage. Au début, les trois premières parties, ce sont les villageois qui ont gagné à plate couture. Parce qu'on mettait peut-être pas assez de loup-garou. Et on aurait dû le mettre dès le début, ce loup blanc, pour mieux équilibrer. Maintenant, je voudrais savoir si vous avez un nombre de joueurs minimum et maximum que vous préférez pour jouer. Par exemple, moi, j'aime pas jouer à plus de 14 joueurs. Quand il y a plus de 14 joueurs, je trouve que les gens s'ennuient, que les parties sont beaucoup trop longues. Et donc, je limite mes parties à 14 joueurs au maximum. Par contre, en joueur minimum, ça me dérange pas de jouer à 7 joueurs. Et plus un meneur, ça ne me dérange absolument pas. Dans ces cas-là, je fais en sorte que les parties durent longtemps. Je mets moins de... Par exemple, la sorcière, je lui enlève son pouvoir de mort. Je lui laisse son pouvoir de vie. Je fais des petites modifications comme ça. Donc vous, joueur mini, joueur maxi.
8-10 personnes, je pense que c'est pas mal.
Ouais.
Après, quand il y a trop...
Méli-mélo. Donc, ouais. Et vous Nicolas, toi, tu as fait des parties avec beaucoup de joueurs, a priori.
Ouais, c'est vrai que plus souvent, ça tourne autour d'une dizaine, mais j'ai fait des parties beaucoup plus nombreux que 14.
Ouais.
C'est vrai qu'il peut y avoir l'ennui, quoi, après. En général, si c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude, ça tourne un petit peu d'une partie sur l'autre. Et puis, comme je disais, une partie peut refaire une partie avec un peu plus petit nombre à côté. Mmh. En attendant, mais c'est vrai que il y a toujours un peu des joueurs un peu plus aguerris et qui ont tendance toujours à mieux mener ces parties là en fait quand il y a plus de monde. Là d'ailleurs, l'esprit de vengeance est plus grand d'ailleurs. Parce que, et on arrive d'ailleurs quand on a des parties très nombreuses où il y a des joueurs qui sont très forts,
les joueurs expérimentés, ouais.
À avoir du coup des joueurs un peu moins expérimentés qui essayent de les faire sortir très rapidement.
Oui, ouais.
Ça, c'est beaucoup plus courant quand il y a plus de monde. Parce qu'ils ressortent plus et souvent c'est plus difficile de s'intégrer dans le jeu, ouais. C'est sûr. Ouais. Alors, c'est pour ça que l'idéal, ouais, c'est une petite dizaine. Ouais, c'est
pas mal. Joueur max, combien ? Parce que ce soir, on a commencé à 11 joueurs plus un meneur. Et on...
Ouais, 15.
15 joueurs plus un meneur. Ouais.
Oui, moi j'ai fait déjà l'expérience quand j'ai découvert le loup-garou où je jouais directement dans un bar et j'ai joué au maximum 18 joueurs. Mm-hmm. Et c'est effectivement beaucoup, car effectivement pour s'intégrer ou apprendre, c'est pas évident parce que si on meurt dès le début, il y a le côté ennui que j'ai trouvé. Et du coup, j'ai trouvé que quand je jouais trop nombreux, ça faisait la peur de mourir trop vite. Et là, ça crée des tensions où il ne faut pas que je meure parce que je vais m'ennuyer. Et après, ça peut faire des débats et des fois, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Et ben, ça agrandit encore plus le jeu avant d'en faire une nouvelle partie. Et ça, je trouve que ça, c'est le côté trop nombreux pour moi. Après, pour moi, le bon chiffre, c'est vraiment 12 maximum. Et effectivement, 8, c'est 8 minimum, 12 maximum pour moi.
Très bien. Oui, donc, Béatrice.
Moi, minimum, je dirais 9-10.
Oui.
Parce qu'avec les enfants, c'est vrai qu'on a joué à peu, en fait. Mais c'est vrai que la partie est vite bâclée. Et puis, je sais pas, il n'y a pas le même enthousiasme, en fait.
Oui.
Et en maximum, je dirais 14.
D'accord. Donc, ouais, bon, on est tous à peu près dans les 12, 13, 14, quoi. Tous dans les mêmes eaux. Est-ce que vous avez des stratégies à adopter pour gagner, pour durer le plus longtemps, quand vous êtes loup-garou, quand vous êtes villageois, pour ne pas vous faire démasquer, est-ce que vous aimez dévoiler un petit peu votre rôle? Est-ce que vous aimez beaucoup parler? Comment ça se passe quand vous êtes loup-garou? Est-ce que vous faites du bruit la nuit? Est-ce que vous faites exprès de faire du bruit quand vous n'êtes pas loup-garou? Enfin, expliquez-moi quelles sont vos stratégies préférées.
Alors moi, la stratégie que j'ai, c'est déjà la nuit, ce que j'aime bien, c'est l'écoute. Vraiment l'écoute. Parce qu'effectivement, il y a des gestes qui se font et ça peut... Hop, ça, j'aime beaucoup la stratégie de l'écoute. Et ensuite, effectivement, avec le rôle de la journée, c'est d'être en même temps le côté neutre. C'est-à-dire que souvent, je ne réponds pas aux questions. Et ça fait toujours une ouverture de débat. Et c'est vrai que ça, j'ai remarqué dans des parties que j'ai faites, ça peut faire une partie on tue ou une partie on ne tue pas, et ça crée des confusions. Et ça, c'est bien sûr, après, chaque partie est toujours unique, il y a des joueurs plus confirmés que d'autres, mais je trouve que c'est une technique qui marche.
D'accord. Ah ouais. C'est la poker face à tout moment, en fait, aussi bien quand tu es loup-garou que quand tu es simple villageois. D'autres personnes ont des stratégies? Nicolas?
Moi, je partage aussi l'avis de Flavien au niveau de l'écoute pendant la nuit, ça c'est très important. Essayer de rester bien calme, bien concentré, et réfléchir aussi à ce qui va se passer le jour. Par contre, moi j'ai plus tendance à questionner, c'est plutôt la tactique, de façon à... dans un premier temps, découvrir un peu les plus faibles. ça permet de rapidement savoir où on se situe et qui risque d'aller plus loin. Et qu'on soit loup-garou ou villageois, ça permet quand même d'avoir des bases assez rapidement sur la partie et de faire un premier tri. Alors que c'est vrai que si on est... après, il y a plusieurs manières de questionner. Hein. C'est pas forcément verbal non plus. Ça peut être l'observation aussi. Ça revient un peu à ce que dit Flavien. Le jour est un peu observateur.
Ouais. Alors moi, quant à moi, des fois je parle, des fois je parle pas. Peu importe que je sois loup-garou.
Moi aussi, je pense que ce qui est important aussi, c'est souvent de changer de tactique.
Brouiller les pieds. Voilà, moi, je change de tactique.
Jamais faire la même chose. Ouais. Même si on a le même, même si on est pour village.
C'est vrai, je confirme.
Ouais. Ah, ça. Tu confirmes aussi. Mais toi, finalement. Par contre, ouais, finalement, après, ah bah tu vas peut-être changer de. Parce que c'est vrai, souvent tu parles pas beaucoup et tu réponds juste aux questions. Tu vas peut-être changer de tactique pour les prochaines fois.
Ouais. Exactement.
Vous vouliez y aller?
Ouais, nous.
Ouais, et ben très bien. Donc on a Alex et Béatrice qui doivent nous quitter, qui ça vont marche. Y aller. Donc. Ok, très bien. Laura aussi va y aller. Eh ben, pas de problème. Donc voilà, on a perdu 3 personnes à l'instant, mais on va continuer. On a encore 3, il y a encore Flavien, Laurie, Nicolas et moi-même. Et donc maintenant, on va parler de l'ambiance du jeu, qui donc pour moi, Loup-garou est un jeu d'ambiance, justement. Et qui met pas mal d'ambiance, justement, enfin qui permet aux joueurs de passer une très bonne soirée en réfléchissant un petit peu, mais pas trop. En plus, on n'est pas toujours obligé de réfléchir. Comment trouvez-vous l'ambiance? Comment avez-vous trouvé l'ambiance de ce soir, entre les parties, pendant les parties?
Plutôt bonne, conviviale, on s'est bien amusé.
Oui. Est-ce que vous auriez aimé que les parties s'enchaînent plus rapidement, ou vous étiez content de discuter entre chaque partie pendant que vous empiffriez de bonbons et autres? Et d'ailleurs, personne n'a ramené un truc fait maison. Ah, je suis un petit peu déçu.
C'est vrai. Disons que tant qu'il y a des bonbons, on s'ennuie pas.
Voilà.
Après, on est obligé de faire durer un peu plus les parties. Oui, c'était plutôt convivial et... Il y a pas mal d'interaction quand même.
Ouais. Après, moi, ce que je peux regretter, c'est que des fois, il y a des personnes qui monopolisent la parole, les joueurs expérimentés surtout.
Ouais.
Là, ça s'est pas trop fait. Alors, David a été très fort parce que les premières parties, il avait tout compris en peu de temps, il savait, et donc il parlait beaucoup, il expliquait tout. Mmh. En plus, il était villageois, donc il était dans son bon droit de, d'expliquer tout. Bon, mais sinon, enfin, oui.
Moi, effectivement, l'ambiance du jeu Loup-Garou, là, ce soir, ça a été vraiment très convivial et en même temps très théâtral aussi. Et c'est ça, enfin, le côté impro.
Oui.
Et puis, bah, le côté relationnel, justement, avec tout le monde. Et ça, c'est très sympa, je trouve, par rapport à ça, dans le Loup-Garou de ce soir. Mmh. Après, effectivement, c'est les joueurs expérimentés où, des fois, il y a trop de blablabla.
Oui,
et ça c'est parce que les parties s'enchaînent un peu plus vite ou alors vraiment de arrêter le blabla vraiment et de s'arrêter quoi, de mettre un temps vraiment prédéfini pour le maire. Ça c'est vrai que c'est le côté un peu des fois que je trouve un peu long.
Je pense que ce que j'ai trouvé ce soir moi c'est que le rôle de maire n'a pas été assez
il a
clarifié, expliqué parce que je pense que dans les parties que je faisais, c'était quand même la personne qui donnait le tempo un peu dans les décisions. Mm-hmm. Et là, ça partait peut-être un peu trop dans tous les sens. Quoi. C'est vrai qu'il faudrait quand même cadrer un temps.
Alors, je suis entièrement d'accord avec toi.
Il y a éventuellement un tour un peu de jeu, enfin, des joueurs. Chacun donne son avis. Enfin, moi, j'ai beaucoup fonctionné avec des meneurs aussi qui menaient un peu les choses comme ça, qui répétaient le rôle aussi du maire. Et du coup, il y avait un peu un tour de joueurs. Finalement, chacun a en gros quelques secondes pour donner son avis, et ensuite on y va, on décide.
Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, là, c'est moi qui n'ai pas fait mon boulot de meneur. J'ai donné le maire au début à quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'expérience et qui n'a pas mené le jeu. Et ben, après, tous les maires qui ont suivi, ils ont suivi le mauvais exemple, je dirais, et ils n'ont pas trop cadré le truc. C'était à moi de rappeler au maire qu'il fallait qu'il me dise quand il voulait voter ou autre. Je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas hésiter à mettre du rythme dans ce jeu pour stopper les grands discours. Donc là, on a un petit peu débordé sur le rôle du maire. Sinon, moi, je trouve que ça a permis... Là, il y avait beaucoup de personnes qui ne se connaissaient pas ce soir et vous avez tous discuté entre les parties, entre vous. Et donc, je trouve que ça a carrément bien créé l'ambiance ce soir comparé à d'autres jeux qui sont beaucoup plus de stratégie où on va discuter que du jeu, que de la partie. Là, on arrive à discuter.
Le jeu reste assez simple à comprendre, donc du coup, ça laisse plus de temps et plus d'esprit pour le reste.
Ouais.
Quand les jeux sont un peu plus complexes à comprendre, on passe déjà une demi-heure à comprendre les règles. C'est plus difficile pour l'ambiance, surtout si on est nombreux. Après, si on est un petit comité, ça va. Mais...
Et alors là, ça s'est pas trop passé, mais souvent, quand deux joueurs sont morts, ils vont à l'écart et ils discutent entre eux pour passer le temps. Mais là, ça c'est pas, on n'a pas vu ça ce soir. Donc on va passer maintenant au tour de table de recommandations de jeux en rapport avec celui-là. Est-ce que vous avez des jeux que vous recommanderiez pour les personnes qui ont aimé le Loup-Garou de Terce-Lieu ?
Non, pas forcément.
Tu peux reformuler.
Est-ce que pour les personnes qui ont aimé ou alors les personnes qui n'ont pas du tout aimé le Loup-Garou de Terce-Lieu, est-ce qu'il y a des jeux qui y ressemblent que des personnes pourraient aimer autant? C'est-à-dire que si t'as aimé, si t'aimes la glace à la vanille, bah t'aimeras la glace au chocolat, quoi. Là, c'est pareil. Si t'as aimé Loup-Garou, bah t'aimeras forcément les jeux d'ambiance, les jeux de stratégie.
Ah oui, bah effectivement, le jeu Loup-Garou amène d'autres. De même style de jeu.
Ouais.
Il y a un jeu qui ressemble beaucoup avec des vampires.
C'est Nosferatu. Oui, je l'ai noté. Ouais, tout à fait. Ouais. Nosferatu, notamment, il y ressemble. J'ai joué un petit peu, j'avais trouvé ça sympa. Moi, je connais très bien The Resistance. Donc, il y a un autre jeu du même éditeur, du même auteur, qui est Avalon. Alors, The Resistance, c'est dans le futur. Avalon, c'est plus à la cour du roi Arthur, si je dis pas de bêtises. The Resistance, donc, ça se joue de 5 à 10 joueurs, donc il faut être moins nombreux. Les avantages de The Resistance par rapport à Loup-Garou, c'est qu'il n'y a qu'une seule nuit très rapide au début pour savoir qui est avec qui sont les gentils, qui sont les méchants. Après, il n'y a plus de nuit et il n'y a pas un seul mort jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est ça que... Et c'est toujours pareil, un jeu où il faut savoir qui est gentil, qui est méchant, qui sont les résistants, qui sont les espions. Ça joue à peu près dans le même ordre de temps que Loup-Garou. Mais pour moi, la Rolls-Royce, ça reste quand même Loup-Garou tire ce lieu. Parce que c'est le plus connu. Et pour moi, les autres, ce sont que des imitations qui ne valent pas l'original. Je pense à Mafia aussi, qui est un jeu Mafia. Comme ça. Oui. Mafia, pour moi, c'est une imitation, mais ce n'est pas du tout l'original. Oui. Et Mafia, en plus, il faut vraiment être avec des bons joueurs pour pouvoir y jouer.
C'est plus, je trouve, stratégique, plus mental encore, je trouve. Il y a un côté plus structuré, quoi.
Plus structuré.
C'est moins libre, voilà, je trouve.
Ouais.
Enfin, pour moi, en tout cas.
Tout à fait.
Après, il y a un autre jeu que j'aime bien, mais c'est. Bon, ça, c'est un jeu de rôle, mais c'est pas. Il n'y a pas la parole libre, effectivement, entre le matin, la nuit et le jour. Mm-hmm. Mais j'aime beaucoup, justement, sous le nom de Wanted, ou maintenant qui est passé côté Bang. Mm-hmm. Mais c'est pareil, il y a les gentils et les méchants, parce que c'est l'histoire de cow-boy avec le shérif et les hors-la-loi. Mm-hmm. Et je trouve, avec l'extension, ça retrouve un peu le loup-garou aussi, parce qu'il y a des débats, il y a des cartes d'ambiance qui rajoutent un peu le style on se débat, on se défend, on se cache dans les rôles pour tuer ou pas, bien sûr. Et il y a le côté mort aussi, voilà. Mais c'est un jeu de cartes, c'est sur plus, mais il y a un côté, je trouve, qui touche dans l'ambiance un peu comme le loup-garou avec les gentils méchants et on se défend avec la parole. Ouais.
C'est vrai que le Wanted, on peut tout à fait parler au Wanted ou au Bang. Qui est passé au Bang et qui ressemble un petit peu, parce que c'est du rôle caché, parce qu'après il y a aussi Shadowhunter où il y a des rôles cachés, mais c'est pas du tout. Là on parle beaucoup moins dans Shadowhunter que dans Loup-Garou ou Wanted. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le jeu, quelque chose que vous voulez, que j'aurais oublié de, une question que j'aurais oublié de vous poser ou autre?
C'est Je trouve que le loup-garou, c'est pas que pour des. C'est ouvert à tout le monde. Mm-hmm. Et ça, c'est ça que j'aime bien moi dans le loup-garou, c'est que c'est des nouveaux comme des gens super forts dans la stratégie. Mm-hmm. C'est ouvert à tout style de caractère de personne. Mm-hmm. Et ça, c'est ça que j'aime bien dans le loup-garou et qui crée l'ambiance conviviale. Mm-hmm. C'est ça que je voulais rajouter avec ce style de.
Ouais, et ben je confirme. Et moi, je dirais que c'est en plus tout âge, quoi. On peut y jouer avec.
Ça peut être familial aussi.
Ça peut être familial, ouais.
Avec les enfants aussi.
Ouais,
parce que ça reste assez simple. Hein. Mm-hmm.
On peut tout à fait mélanger les âges et ça peut être. Et tout le monde peut s'éclater. Et ils disent à partir de 8 ans, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants qui ont moins de 8 ans.
Qui sont très doués et qui savent mentir, qui sont loups-garous, qui vont tuer
un de leurs congénères pour pas se faire attaquer.
Ah ouais. Ouais, je confirme, oui.
Oui.
De toute façon, ouais, pour être, ouais, gagner avec les loups-garous, c'est une solution.
C'est une solution, ouais, tuer un de ses congénères. Et moi, j'avais adoré la première partie que j'avais fait au loup-garou. C'était donc au début du jeu, il avait que quelques années, il était pas très connu. Et il y avait une mère, je me rappelle encore. Et elle était loup-garou et elle a fait accuser son fils qui avait 10 ans, quoi, qui lui était villageois. Et la mère a fait: regarde-moi mon fils et dis-moi que t'es pas loup-garou. Son fils il lui fait: bah non, je suis pas loup-garou, ma maman. Et la mère a fait: oh, toi t'es mon fils, je sais quand tu mens. Regardez, mon fils est un loup-garou. Et donc elle a tué son fils qui aimait le pauvre, quoi, il avait même pas 10 ans. Alors, c'était sa première partie, mais elle a pas hésité à le tuer pour pouvoir.
Ça, c'est pour tous les mensonges qu'il a fait par ailleurs.
Voilà.
On va aller au jeu rapidement.
C'est ça.
C'est vache, quand on ramène tes enfants à jouer avec toi. Ouais.
Et c'est vrai, moi, quand j'ai vu ça, je fais un jeu qui arrive à faire ça à une mère de famille qui fait ça, mais je fais bah. Il est génial ce jeu, quoi. Donc,
oui.
Sans pitié.
Et ouais, je me rappelle, c'était aux Utopia, ça devait être en 2003-2004 à peu près. Et j'ai et voilà, donc dans la foulée, dans la soirée, je me suis parti avec le meneur, j'ai quitté les Utopiales et je suis allé jouer dans un bar à Nantes, alors que j'habitais pas Nantes à l'époque, et j'ai enchaîné les parties, et c'était super, quoi. Voilà, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire.
Et puis la petite parenthèse que je voulais rajouter,
bien sûr.
C'est que là ce que j'ai trouvé pour ce soir, c'est qu'il y avait donc des parents et une petite fille qui était là, et on a joué, mais elle était super calme. Oui. Alors, donc, c'est pour simplement dire aussi que, à partir de là, ça met un jeu, effectivement, pour vous dire ouvrir à tout âge. Mm-hmm. Et c'est aussi le côté que j'ai trouvé, le meneur peut changer. Et Tout le monde peut venir de meneur, ça peut entraîner aussi. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut se mettre meneur, on change. Et je trouve que ça met un rôle, parce que c'est un rôle aussi meneur. Et ça aide aussi à la personne qui a envie de se développer dans la parole, à justement, dans le quotidien, encore à dépasser sa timidité. Et ça, j'ai trouvé ça très bien, parce que j'ai fait l'expérience de meneur dans un bar. Et ça m'a aidé aussi à dépasser la timidité et le jugement. Et voilà, je voulais quand même dire ça, et c'est ce qui s'est passé parce que ce soir il y a eu un changement avec vous, et il y a eu ce changement qu'il y a eu avec du coup une mère qui est devenue meneuse.
Et David aussi.
Et David. Voilà, merci pour l'info.
Et effectivement, le loup-garou, comme d'autres jeux, peut aider pour des troubles, enfin pour des troubles de la personnalité. C'est un peu fort. Alors c'est vrai, j'ai assisté à une
moi j'en ai eu après
une conférence.
Après, mais dans les jeux, ça a été très difficile.
Ah oui.
Là, ça va un peu mieux parce que je me remets.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un bon moyen, comme le théâtre, puisqu'on fait un petit peu de roleplay comme on dit. Ça, pour vaincre sa timidité ou pour parler devant d'autres personnes, c'est un très bon moyen. Et ben voilà, nous arrivons enfin à la conclusion de cette émission. Donc c'était commentaire d'après-jeu. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de jouer, d'analyser et de critiquer vos jeux et vos stratégies de jeu. Votre plaisir ludique n'en sera que décuplé.